إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون إنه لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون وفي آيات كثيرة من كتابه الكريم ينزه نفسه تبارك وتعالى عن أن يكون قد خلق هذا الخلق باطلا ولعبا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فبين في هذه الآية أن هذا هو ظن الكافرين من عباد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لم يوجد هذه الدنيا ولم يخلقها إلا عبثا ولهبا ولهوا ولعبا ثم تهددهم تبارك وتعالى أنهم بهذا الاعتقاد الفاسد يكونون من أهل النار المعذبين عياذا بالله بينما هناك طائفة أخرى من الناس أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وذكرهم سبحانه وتعالى بأنهم يعتقدون أن الله عز وجل خلق هذا الخلق لحكمة بالغة إنهم العباد المكرمون وإنهم المتقون أولياء الله عز وجل قال تبارك وتعالى عنهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولي العقول السليمة والألباب المستقيمة الذين يحسنون التفكر في مخلوقات الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فبعد ذلك ما هو قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فتوسلوا إلى الله عز وجل بهذا الإيمان الراسخ أن الله خلق الدنيا وما فيها للحق وبالحق أن وطلبوا بذلك الوقاية من النار وبهذا سيقيهم الله عز وجل من النار خلافا لمن ظن أن الله خلق ما في هذه الدنيا باطلا قال تعالى فويل للذين كفروا من النار وفي هذه العقيدة سر عظيم ينبغي ذكره هنا ألا وهو أن عقيدة أهل الإيمان أن الله خلق الدنيا وما فيها بالحق وللحق لا باطلا ولا لعبا تثمر في المؤمن أعمالا صالحة وتثمر ثمارا طيبة في أخلاقه وسلوكه وعباداته بينما عقيدة أهل الكفر أن الله خلق الدنيا وما فيها باطلا تثمر أعمالا خبيثة سيئة في الأخلاق والتعامل والعبادات والسلوك وأهل النار عباد الله. الله عز وجل بعد أن يدخلهم في النار يقول لهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيها المسلمون، يتبين من ذلك أن الله عز وجل خلقنا لحكمة عظيمة، ألا وهي عبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يخلقنا ولم يوجدنا إلا ليأمرنا وينهانا تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فيجب على المؤمن أن يعرف ما هو واجبه نحو ما أمر الله عز وجل به. وإن المؤمن إذا قرأ كتاب الله أو درس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وأدرك أن الله عز وجل يطلب منه سبعة أمور تجاه أوامره تبارك وتعالى: أولا العلم بما أمر الله، ثانيا محبة ما أمر الله، ثالثا العزم على فعل ما أمر الله به، رابعا فعل ما أمر الله عز وجل به، خامسا أن يقع هذا الفعل خالصا صوابا، سادسا الحذر من جميع ما يحبط الأعمال التي أمر الله بها، وسابعا الثبات على أمر الله. فأما الأول عباد الله الذي هو العلم، فلا بد أن يتعلم الإنسان ما هو الذي أوجب الله عز وجل عليه حتى يقوم به، وما الذي حرم الله عز وجل عليه حتى يجتنبه. وفي هذا بيان أهمية العلم ومكانة العلم عند الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم أن يسأله المزيد إلا من العلم. قال سبحانه: وقل ربي زدني علما. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستزيد منه كما أمره أن يستزيد من العلم. فيجب على المسلم أن يكون على علم ومعرفة بما أوجب الله عز وجل عليه حتى يقوم به، وبما حرم الله عز وجل عليه حتى يجتنبه، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره بالعلم قبل الاستغفار والعمل. أيها المسلمون، لما كان الأمر كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى كل صباح بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ما من يوم إلا وهو يدعو الله عز وجل فيه أن يزيده علما وفهما في دينه سبحانه وتعالى. ثم تلاحظون في الحديث أنه قدم في الدعاء العلم النافع قبل الرزق الطيب والعمل المتقبل. لماذا؟ لأنه لا يعرف الإنسان ولا يميز الإنسان بين الرزق الطيب الحلال والخبيث، ولا يميز بين العمل المردود والعمل المتقبل إلا بعد العلم. فكيف يطيع الله عز وجل إنسان لا يعرف ما أوجب الله عز وجل عليه؟ وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا سمع المسلم ذلك فعليه أن يحرص على أن يكون له حظ من معرفة دين الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر علمك يكون إيمانك، وإيمانك وعلى قدر جهلك يكون ذنبك عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا محبة ما أمر الله. فليس كل من يعرف أوامر الله وليس كل من يعرف ما أوجب الله يحب ذلك، بل لابد يا عبد الله أنك إذا عرفت أمرا من أوامر الله أن تكون أشد الناس محبة له حتى تقوم به. لأن من كره أمرا مما أنزل الله إنه يكفر بالله. قال تبارك وتعالى: في كتابه الكريم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فإياك إياك عبد الله أن تكون ممن إذا سمع أمرا من أوامر الله اشمأز قلبه وضاق صدره وجعل كأنه في قلق والعياذ بالله بل عليك أن تحب ما أمر الله به وأن تكره ما حرم الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فلا يستكمل إيمانك حتى تحب ما أمر الله به سبحانه وتعالى ولا يكون إيمانك كاملا حتى تحب ما جاء من الله سبحانه وتعالى ولا بد أن نعمر قلوبنا بمحبة أوامر الله قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فقلبك إذا امتلأ محبة لشريعة الله امتلأت جوارحك عملا وتطبيقا لأوامر الله سبحانه وتعالى ومن كره أوامر الله فإن هذا من زيغ القلوب عياذا بالله وقد علمنا الله عز وجل أن نقول في دعائنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله قائلا أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك أيها المسلمون فإذا عرف وأحب فعلى العبد أن يعزم على الفعل وأن يعزم على أن يطيع الله سبحانه وتعالى لأن كثيرا من الناس عرف أوامر الله وأحبها ولم يعزموا على أن يفعلوها لماذا؟ خوفا على تغير دنياهم يعرفون أنهم يعيشون أو يشتغلون مثلا في عمل قد حرمه الله ويعرفون كونهم محرما ويحبون ذلك ولكنهم لا يعزمون على تركه لماذا؟ لأنهم يخافون أن تقل دنياهم وأن تقل أموالهم فهم لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل قائلا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد فلا بد يا عبد الله أن تعزم على أن تطيع الله سبحانه وتعالى وكثير من الناس إذا سمعوا موعظة لا يتأثرون بها ولا يتعظون بها وقد قال عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فإذا سمعت أن ما تفعله حرمه الله عليك أن تتركه يا عبد الله رابعا الفعل نفسه فإن كثير من الناس يعزمون ولكنهم يسوفون ويؤخرون حتى يدركهم الأجل وتنزل بهم المنية فيكون ممن يقول يوم القيامة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك فيقال كلا إنما هي كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أمرنا الله عز وجل بالأعمال بل بالمسارعة إلى الأعمال قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى رفيها فلا بد للإنسان أن يسارع إلى طاعة الله وأن لا يسوف فيندم عندما يلقى الله سبحانه وتعالى خامسا على الإنسان أن يفعل ما يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله لأن الله لا يقبل من عباده أعمالا إلا إذا كانت خالصة لوجهه قال عز وجل في كتابه الكريم فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله دين خالص وقال عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وعلى الإنسان كذلك أن يكون في موافقا للسنة. فكم من الناس يريدون أو يظنون أنهم يتقربون إلى الله بأفعال تكون مخالفة للسنة، فبالتالي تكون مردودة عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سادسا، على الإنسان الذي يعمل عملا يتقرب به إلى الله أن يحذر من جميع ما يحبط الأعمال، فإن هناك ذنوبا تحبط الأعمال عباد الله. قال تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد يعمل الإنسان طيلة عمره ولا يقبله الله، بل يرد عليه وهو لا يشعر بسبب جهله بأوامر الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يحبط الأعمال الشرك بالله والكفر بالله. قال عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك، أي يا رسول الله، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما نزل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، عظم خوف الصحابة رضي الله عنهم من أن تشملهم الآية وتكون قد تحدثت عنهم. وهذا ثابت ابن قيس رضي الله عنه، أخذه الخوف الشديد فذهب ينفرد في بيته منكسا رأسه حزينا يظن أن الله يتحدث عنه، لأنه كان رفيع الصوت قويه. فلما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام أحدا ليستخبر عنه وعن أحواله، أخبره أنه خاف أن الله قد أحبط أعماله بسبب رفع صوته على صوت رسول الله. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا إليه يخبره أنه لا تخاف إنك من أهل الجنة. فلا بد أن يخاف الصالح والذي يعمل لله أن يخاف أن لا يقبل عمله وأن يرد عليه. سابعا، بعد ذلك كله لا بد من الثبات على الحق. فلا يكفي أن تعمل، بل لابد أن تثبت حتى تلقى الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعليك يا عبد الله ألا تأمن مكر الله وألا تأمن كيد الشيطان حتى تخرج من هذه الدنيا وأنت سالم من الغرور بالشيطان والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا فائدة كبيرة لمن أراد أن يتقرب إلى الله، عليه أن يعرف أوامر الله وأن يحبها وأن يعزم على فعلها وأن يقوم بها بدون تأخر ولا تسويف. وعليه أن تكون موافقة للسنة خالصة لله. وعليه كذلك أن يحذر جميع ما يحبط العمل وأن يثبت بعد ذلك كله على طاعة الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، mes frères et sœurs, nous tous ici savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés en vain et n'a pas fait exister ces créatures inutilement. Allah azza wa jalla a dit dans le verset: il a créé les cieux et la terre en toute vérité, élevé soit-il au-dessus de ceux qui lui associent. Et dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il n'a pas créé les êtres humains et non plus quiconque parmi ces créatures en rien ou inutilement. Il dit dans un verset: et nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux inutilement. Telle est la pensée de ceux qui ont mécru. Malheur d'eux, malheur donc aux mécréants pour le feu qui les attend. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les gens qui ont mécru ont pour croyance que toute cette création est inutile et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour une raison. Pour cela, ils ont mérité de faire partie des gens de l'enfer et ils ont reçu la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, Allah azza wa jalla fait les éloges d'une partie des gens. Il y a une voiture Audi A1 qui gêne en bas. Qu'Allah guide celui qui gêne les gens en pleine prière du vendredi. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il n'a pas créé les cieux et la terre en vain. Qu'Allah azza wa jalla nous montre qu'il n'a pas créé les cieux et la terre en vain et que telle est la pensée de ceux qui ont mécru. Et qu'à cause de cette pensée, ils mériteront l'enfer comme douloureux châtiment. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. En même temps, Allah fait les éloges d'une partie des gens qui sont des gens qui ont au contraire la croyance ferme et la conviction pleine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre ainsi que ses habitants pour une immense raison. Allah azza wa jalla a dit au sujet de ces gens-là, il y a certes dans les cieux et la terre et dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour un peuple qui est doué de raison. Ceux qui voient leur Seigneur debout, assis ou couché sur leur côté et qui disent « Oh notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela inutilement, purifié sois-tu et gloire à toi, préserve-nous donc du châtiment de l'enfer. » Allah Azza wa Jalla nous montre que ces gens ont eu la pleine conviction ferme qu'Allah a créé ces choses pour une raison bien précise et pour une sagesse immense. Pour cela, ils ont invoqué Allah en lui demandant la protection contre l'enfer et Allah les exaucera. Quant à ceux qui ont eu la mauvaise croyance, Allah nous montre qu'il leur a mis la menace de l'enfer et que même lorsqu'ils entreront en enfer, Allah leur dira « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vers nous vous ne retourneriez pas ? Qu'Allah soit élevé, certes c'est lui la vérité, le roi. » C'est lui le roi, la vérité, pas de divinité ne mérite l'adoration à part lui. Il est le Seigneur du trône immense, subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans cette croyance un secret pour celui qui a une raison saine. Le secret qu'il y a dans cette croyance, c'est qu'elle a pour fruit des bonnes actions dans la vie de la personne, un bon comportement, des adorations et tout ce qui va dans le bon sens. Quant à la personne qui a la croyance que tout cela est créé inutilement, va avoir des mauvais comportements. Il va découler de tout cela des mauvaises choses venant de lui. Wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jalla nous dit la raison pour laquelle il nous a créés. Il dit dans un verset, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » À partir du moment où tu as compris, ô serviteur d'Allah, que tu existes pour l'adoration d'Allah, et qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné des ordres que tu dois respecter, et des interdits que tu te dois obligatoirement de te laisser, il t'incombe de te répondre à la question « Quels sont donc nos devoirs ?» devant les ordres qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés, et c'est le sujet de notre discours. Sachez que celui vous étudiez les livres d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous remarquerez qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous donne des ordres, nous demande de mettre en pratique cette chose. Premièrement, il nous demande de connaître quels sont les ordres qu'il nous a mis de mettre en pratique. Deuxièmement, d'aimer ces ordres qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, de prendre la décision ferme de les mettre en pratique. Quatrièmement, de les mettre en pratique. Cinquièmement, de les mettre en pratique sincèrement et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, prendre garde contre tout ce qui peut annuler les actes que l'on fait pour Allah. Et septièmement, rester ferme dans les actes que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la première chose qui nous est obligatoire de comprendre, c'est la science. Le fait de connaître tout ce qu'Allah nous a rendu obligatoire et tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdit pour mettre en pratique les obligations et délaisser les interdits. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache donc qu'en fait il n'y a aucune divinité ne méritant l'adoration à part Allah. Et après cela, implore le pardon pour tes péchés. Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète, alayhi salatu wa salam, avant d'implorer le pardon pour ses péchés, d'avoir la connaissance et la science. le musulman se doit de savoir qu'est-ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Il n'a pas le droit d'ignorer ce qu'Allah azzawajal lui ordonne de faire ou lui interdit de faire. C'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La recherche de la science est une obligation à chaque musulman. Et si le musulman ne connaît pas quels sont les ordres d'Allah et ne connaît pas non plus quels sont les interdits, comment va-t-il obéir à Allah et comment va-t-il mettre en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment va-t-il se prémunir de l'enfer alors qu'il ne connaît pas le moyen avec lequel il peut se prémunir contre l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait reçu l'ordre d'Allah mentionné dans son livre, il dit: « Oh mon Seigneur, accrois ma science, ajoute-moi de la science. » L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit: s'il y avait une chose plus noble et meilleure que la science, Allah aura ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer en lui demandant de lui accroître cette chose. Ce qui montre que la science est la chose la plus importante qui passe avant tout. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après chaque prière du matin, invoquait Allah en ces termes: « Oh Allah, je t'implore de me donner une science utile, une bonne subsistance et un acte que tu m'accepteras. » Remarquez dans cette parole qu'il la faisait tous les jours, car il convient aux musulmans tous les jours de se rapprocher d'Allah en apprenant ce qu'Allah lui a rendu obligatoire et ce qu'Allah lui a interdit. Et il a aussi devancé la demande de la science à la demande de la subsistance et des actes. Parce que sans la science, tu ne peux pas distinguer entre les actes pieux et les actes mauvais, ceux qui sont acceptés et ceux qui sont refusés. Tu ne peux pas non plus distinguer entre la subsistance licite et la subsistance illicite. À cause de l'ignorance, beaucoup de gens ont mangé de l'argent illicite et par conséquent sont tombés dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici pourquoi Allah nous dit dans le verset: dit, est-ce que ceux qui ont la science sont pareils à ceux qui ne l'ont pas? Seuls les doués de raison se souviennent. Après que tu aies la connaissance de ce qu'Allah t'a légiféré, tu te dois d'aimer tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant n'a en aucun cas le droit de détester quoi que ce soit parmi les ordres ou interdits révélés par Allah. Allah azza wa jalla nous dit au sujet de ceux qui ont été dans ce cas, il en est ainsi car ils ont détesté ce qu'Allah a révélé. Allah a donc annulé leurs œuvres. Nous comprenons de ce verset que le fait de détester ce qu'Allah a révélé annule les actes et font de la personne une mécréante. Comment un musulman pourrait-il détester une chose légiférée par Allah alors qu'Allah ne légifère que pour son serviteur ce dans quoi il y a une pleine utilité pour lui, et il n'interdit à son serviteur que ce dans quoi il y a un mal pour lui? Subhanahu wa ta'ala, nous devons donc remplir nos cœurs de l'amour de la législation et des ordres d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est pieux, tout le corps le sera, et s'il est pervers, tout le corps le sera, et c'est le cœur. Si tu aimes les ordres d'Allah, ton corps sera pur en pratiquant les ordres d'Allah. Mais si ton cœur est habité par de l'aversion contre les ordres d'Allah, tu verras que tu n'aimeras pas appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ta foi ne pourra être complète sans cette chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et prie pour Allah aura certes complété sa foi. Ne sois donc pas comme ceux qui, lorsqu'ils entendent un ordre d'Allah ou un interdit d'Allah, son cœur s'excite et palpite et sa poitrine se resserre, comme si qu'on lui parlait du feu de l'enfer. Ouais, riyadu billah, lorsqu'on lui parle de la salat et de son importance, il est pressé que tu fermes ta bouche et que tu arrêtes de parler de cette chose. Lorsque tu lui dis que l'intérêt est illicite et que c'est une injustice et un grand péché, il est pressé de quitter l'assise dans laquelle il est avec toi. Lorsque tu lui dis qu'il doit prier ses prières à l'heure, il est pressé que tu changes de sujet. Renaud Laguna, immatriculé dans le 95, qui gêne encore une fois en bas. Qu'Allah Azza wa Jalla guide les gens qui ne montrent pas l'exemple que le musulman doit être le premier à montrer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'en étais où?
Troisième.
Nous devons donc aimer tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être comme ceux qui, lorsqu'ils entendent un ordre d'Allah, le détestent. Wal'iyadu billah, car cette personne ne peut être croyante, ne peut avoir la foi complète. Wal'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en ces termes: oh Allah, je t'implore de me donner l'amour pour toi, et l'amour de tous ceux qui t'aiment, et l'amour des actions qui me rapprocheront à ton amour. Subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, ou troisièmement, après que la personne ait aimé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se doit d'avoir la ferme décision de les mettre en pratique pour Allah subhanahu wa ta'ala, car beaucoup sont ceux qui connaissent les ordres d'Allah et qui savent que c'est la vérité qui les aime, mais très peu sont ceux qui ont la décision de les mettre en pratique. Pour quelle raison? Ils ont peur de changer de situation, ils ont peur que leur argent diminue, comme quelqu'un par exemple qui travaillerait dans un travail qui lui est illicite et qui y a de l'argent qui lui est illicite, il sait que c'est haram, il a de l'intérêt, il sait qu'Allah Azza wa Jalla l'a interdit et il aime que cette chose vienne d'Allah, et malgré cela il n'a pas la décision de le délaisser. Pourquoi? Parce qu'il a peur que son argent baisse, comme celui qui refuse de payer la zakat alors qu'il sait que ça vient d'Allah et qu'il aime cela, mais qui n'a pas la décision de le faire parce qu'il croit qu'en payant la zakat son argent va baisser, par peur de la dunya, des fois même par peur de la réputation envers l'autre. Il sait que c'est un ordre d'Allah, il l'aime, mais à cause du regard des autres, il ne le met pas en pratique, et il n'a pas non plus l'intention de le mettre en pratique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations: oh Allah, je te demande de me donner la fermeté dans tes ordres et la pleine décision d'être droit. Beaucoup sont ceux qui entendent les exhortations, les rappels d'Allah dans lesquels il leur est enseigné les choses licites, ou leur sont enseignées les choses licites et illicites, mais malgré cela, ils ne tirent pas profit et leur cœur reste malade. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset: mais s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur pour eux et leur foi aurait été plus forte. Quatrièmement, la personne doit mettre en pratique après cela les ordres d'Allah le plus vite possible et ne doit pas dire bientôt, bientôt, bientôt et retarder peut-être même jusqu'à ce que la mort lui parvienne sans qu'il n'ait fait aucun acte pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le verset: et empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur, c'est-à-dire dépêchez-vous, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala. Prends garde à dire après je prierai, après je paierai la zakat. Prends garde à dire après je me débarrasserai de l'intérêt. Prends garde à dire j'arrêterai de mentir bientôt. Prends garde à dire après je dis j'arrêterai de désobéir à Allah. Car peut-être un jour viendra dans lequel tu mourras sans avoir obéi à Allah. Et à ce moment-là, tu feras partie des gens qui lèveront leur voix et qui hurleront en disant: oh Allah, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse le mal ou afin que je fasse le bien que je délaissais. Pensez-vous qu'Allah va l'accepter? Croyez-vous qu'Allah va l'exaucer? Loin de là, Wallah. Wal'iyadu billah. Ne soyez pas comme les gens qui retardent les actes jusqu'à ne pas les faire. Lorsqu'un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le meilleur acte chez Allah? Il répondit: la prière à l'heure. Est-ce qu'il a dit de faire la prière puis il s'est arrêté? La prière à l'heure, l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, nous devons nous précipiter vers cela. Cinquièmement, la personne doit faire les actes qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire sincèrement pour Allah, car tout acte par lequel tu ne veux pas la récompense d'Allah, comme quelqu'un qui voudrait qu'on lui fasse ses éloges, ou être reconnu chez les gens comme quelqu'un de pieux, comme quelqu'un qui prie, comme quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela annule l'acte et fait qu'Allah Azza wa Jalla ne l'accepte pas. Tu ne dois le faire que pour Allah, et lorsque tu le fais, tu ne dois le faire que conformément à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as donc pas le droit d'adorer Allah comme bon te semble ou comme tu désires. Tu dois te conformer et t'arrêter devant les limites posées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, la personne doit être en garde contre tout ce qui peut être annulatif de ses actions. Car sachez que certains parmi les péchés destructeurs sont des péchés qui provoquent l'annulation de l'ensemble de ses actes sans que la personne ne s'en rende compte. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla a dit: vos actes pourraient être annulés sans que vous ne vous en rendiez compte. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans, le, dans deux versets que la pire des injustices qui annule les actions, la mécréance et l'association. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il t'a certes été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu fais de l'association, tes actes seront nuls et tu feras partie des perdants. Mais plutôt adore donc Allah et sois parmi les reconnaissants. Et dans notre verset, Allah Azza wa Jalla dit, quant à quiconque, quant à celui qui mécroit à la foi, ses actions seront vaines, annulées, et il fera partie des perdants dans l'au-delà. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a révélé le verset, ô vous qui avez eu la foi, n'élevez pas vos voix au-dessus de celle du messager, et ne lui adressez, et ne lui haussez pas le ton comme vous le faites entre vous, car celui qui fait cela aura ses actes nuls sans s'en rendre compte. La peur des gens pieux parmi les serviteurs d'Allah a habité leur cœur. Voici un compagnon qui répond à l'appel de Thabit ibn Qais. Lorsque ce verset fut révélé, il fut pris par la peur à un point à rentrer chez lui pour y rester à pleurer, pris par la tristesse et la douleur, à savoir que ce verset peut parler de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme pour lui demander de ses nouvelles et pour lui dire, ne t'attriste pas, toi tu ne fais pas partie des gens de l'enfer, mais tu fais partie des gens du paradis. Allah nous enseigne à travers ce verset que l'on doit avoir peur que nos actes nous soient annulés ou non acceptés. Septièmement, après tout cela, le musulman doit être ferme dans l'obéissance d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas adorer Allah que pendant certaines saisons ou pendant certaines périodes. Au contraire, sa vie entière doit être remplie de l'obéissance et de l'adoration d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et aussi, il doit avoir peur de finir sur une mauvaise fin. Combien sont ceux qui ont œuvré dans le bien toute leur vie, mais à la fin de la vie, ils ont fait une mauvaise action sur laquelle ils sont morts. Ils fument donc partie des gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes l'un d'entre vous peut accomplir tout au long de sa vie les actions des gens du paradis. Lorsque sa mort l'atteint, son destin le rattrape. Il se met donc à accomplir les actions des gens de l'enfer et il y entre. Nous voyons donc après cela que le musulman, lorsqu'il reçoit un ordre d'Allah, a pour obligation de comprendre ces sept choses, qui sont la connaissance, quels sont les ordres qu'Allah fait légiférer. Après cela, il doit aimer tout ce qui a été révélé par Allah, subhanahu wa ta'ala, avoir la ferme décision de le mettre en pratique. Après cela, passer à l'acte et le mettre en pratique. Et faire, après cela, le mettre en pratique conformément à la sunna, et en ne voulant par cela que la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, prendre garde contre tous les actes qui peuvent être annulatifs de ses actions. Et septièmement, rester ferme dans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette dunya, mes frères et sœurs, va disparaître. Allah Azza wa Jalla a dit dans un verset, tout ce qui s'y trouve va disparaître. Il ne restera que le visage de ton Seigneur plein de majesté. Cette dunya ne va pas durer. Le musulman ne doit pas avoir le cœur plongé dans ce bas monde à un point où on a oublié les ordres d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu oublier les ordres d'Allah alors que dedans il y a tout le bien pour toi? Comment peux-tu oublier les interdits d'Allah alors que dedans il y a tout le mal pour toi? C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla t'a interdit ces choses. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين جميعا في كل مكان، وارزق الفقراء منهم واشف المرضى منهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.